Vous êtes française ou français et vous résidez à l'étranger ? Les élections européennes arrivent à grands pas. Rendez-vous le dimanche 9 juin pour élire les représentants français au Parlement européen. Ou le samedi 8 juin si vous résidez sur le continent américain ou dans les Caraïbes. Bon vote !
Édition spéciale, l'Inde d'Indira Gandhi, un dossier préparé par Damien Petit.
Si je dois mourir au service de la nation, je le ferai avec fierté. Chaque goutte de mon sang contribuera au développement de ce pays, à son renforcement, à son dynamisme. Propos prémonitoires tenus par Indira Gandhi hier. Indira Gandhi, il y a 11 ans, un après-midi sur France Culture, la Dame de Fer parlait d'elle-même.
Oh, j'aime les enfants, je l'aime les jardins, les fleurs. Surtout, j'aime la montagne, je pense. J'aime beaucoup la montagne. Et puis, j'aime lire. J'aime la musique, j'aime l'art, la peinture. J'aime aussi des films s'ils sont bien faits. J'aime la musique d'Occident beaucoup, et aussi la musique de l'Inde, le chant du peuple.
Gandhi, un nom prestigieux connu du monde entier. Le nom du Mahatma, le père de l'indépendance de l'Inde, assassiné le 30 janvier 1948 par un fanatique hindou. Indira Gandhi, fille unique de Nehru, le premier chef du gouvernement de l'Inde indépendante. Éric Laurent.
La relation entre Indira Gandhi et le Mahatma Gandhi était relativement ténue. Elle l'a rencontré. On n'est pas sûr, en effet, que les relations aient été excellentes. En tout cas, elle avait à cette époque un rôle effacé. Par conséquent, on ne peut pas vraiment se rendre compte, mais entre le pandit Nehru, il est évident, et le Mahatma Gandhi, c'était une relation quasi filiale. Il faut d'abord situer les Nehru. Les Nehru font partie d'une caste de brahmanes, c'est-à-dire la plus haute caste indienne. Mais de brahmanes sans terre, c'est-à-dire de brahmanes éclairés qui très tôt et très vite ont cédé justement leurs terres, préfigurant la réforme agraire à venir. Ça, c'est extrêmement important pour comprendre en effet la psychologie de ces gens. Et le deuxième point, il faut comprendre que Nehru, évidemment, qui était l'artisan donc de l'indépendance de l'Inde, a hérité d'une formidable machine qui était l'appareil du Parti du Congrès, qui était beaucoup plus qu'un parti, qui était une espèce de mouvement un peu hétérogène, qui réunissait en effet toutes les tendances, convergeant vers un seul but, l'indépendance de l'Inde. Et c'est cette machine qu'Indira Gandhi a pénétré de l'intérieur, dont elle connaissait tous les rouages, qui était en effet le principal levier dont elle s'est servie pour prendre le pouvoir en 1966.
Est-ce qu'on peut considérer que Indira Gandhi a été préparée par Nehru au pouvoir ?
C'est sûr qu'elle s'est surtout elle-même extraordinairement préparée au pouvoir. Et elle s'est préparée au pouvoir notamment en observant son père et ce qui lui est apparu assez vite comme certaines des faiblesses de son père, c'est-à-dire un sens un peu excessif selon elle de la théorisation, une absence d'esprit pratique dans un pays extrêmement complexe comme l'Inde où les défis à relever sont urgents, les combats à mener sont immédiats. Et pour comprendre la carrière de Gandhi et surtout la volonté qu'elle a eue ensuite d'imposer le reste de sa famille, ce caractère doit être mis en exergue, parce que c'est vrai qu'elle a pensé qu'à l'intérieur d'un pays très traversé par des forces centrifuges, il fallait un État fort. La pérennité de cet État fort ne pouvait être assurée probablement que par ceux qui, au fond, étaient les garants de la continuité de l'Inde depuis son indépendance, c'est-à-dire sa dynastie, sa famille. Alors elle a tenté de mettre sur orbite son premier fils, le plus jeune, qui s'appelait Sanjay, qui avait un goût extrêmement prononcé pour la politique. Alors, il y a eu de nombreuses péripéties, toutes malheureuses, notamment Sanjay a été compromis dans une série d'affaires financières. Et puis, il y a eu aussi la mort tragique de ce fils, en lequel vraiment elle fondait de grands espoirs. Et pour comprendre en effet l'affrontement qui a eu lieu ensuite entre la belle-fille d'Indira, c'est-à-dire la veuve de Sanjay Gandhi et Indira Gandhi, il faut en effet se rendre compte de l'importance qu'avait pris ce fils. Et cette belle-fille a voulu en effet prendre le relais de son mari défunt.
Maneka
Gandhi, exactement. Ce que la belle-mère n'a jamais accepté. Donc il y a eu rupture avec cette belle-fille qui a été quasi exilée hors de la maison.
Indira Gandhi s'est donc rabattue sur son deuxième fils Rajiv.
en désespoir de cause, elle s'est adressée à ce deuxième fils qui avait toujours, lui, refusé, mais elle refusait systématiquement et très nettement d'entrer dans l'arène politique.
Il s'agit de Rajiv.
Rajiv Gandhi, qui est le fils aîné et qui est pilote Air India, qui est marié à une Italienne. Et ce deuxième fils est entré vraiment à contre-cœur dans l'arène politique, mal à l'aise, maîtrisant mal justement l'appareil du parti, les joutes politiques et byzantines. Et en fait, aujourd'hui, il se retrouve effectivement en première ligne, pas préparé et effectivement probablement en effet très très démuni face à cette vacance du pouvoir. Parce que, comme pour son premier fils, elle comptait sur le facteur temps. Elle était persuadée qu'en effet, elle serait encore pour très longtemps au pouvoir. Et elle pensait qu'elle aurait largement le temps de le modeler, de le préparer. Et aussi de l'imposer à l'opinion publique indienne. Ce qui n'a pas été le cas.
Pour s'imposer à l'opinion publique indienne, Indira Gandhi avait su conquérir de haute lutte le parti du Congrès, ce parti qui s'identifie à l'histoire de l'Inde moderne, Christiane Hurtig, CNRS, Sciences Po.
Ça a été le principal ciment de l'Inde à bien des égards. Ça a été la courroie de transmission de la volonté gouvernementale et des aspirations de la masse entre la base et le sommet, de manière très claire. Et dans le système fédéral, c'est aussi ce qui a permis de maintenir une certaine harmonie, une certaine concordance de vue et une unité entre le niveau central et le niveau des États pendant longtemps. Ce n'était quand même plus tout à fait vrai récemment, étant donné que dans les États, le factionnalisme était devenu très très intense et que l'unité qui demeurait n'était plus une unité que par imposition de la volonté du centre sur le leadership des États.
Est-ce que ce parti du Congrès aujourd'hui peut générer un nouveau leader, un nouvel homme fort pour l'Inde?
La question est de savoir si ce leadership aura une base réelle ou si c'est par manipulation. La vérité, c'est que le parti du Congrès, à l'heure actuelle, n'a plus grand-chose de commun avec le parti de Nehru, ni même avec le parti qu'a dirigé longtemps Indira Gandhi. L'aspect vie démocratique, expression des aspirations de la base, aller-retour entre les impulsions gouvernementales et les aspirations de la base a été très fortement amenuisé au cours des années.
Un pouvoir central qui, ces derniers temps, donc, s'était amoindri alors que les États, les minorités, faisaient entendre leur voix de plus en plus fort. Indira Gandhi, elle, avait de grandes ambitions planétaires. Paul-Marie de la Gorce.
La politique étrangère d'Indira Gandhi était tout entière dominée par un mot et par une analyse. Le mot, c'est celui d'indépendance, et l'analyse était la suivante. Toute cette partie du monde a été successivement champ de bataille entre l'Est et l'Ouest. La Chine pendant la guerre civile jusqu'en 1949, la Corée pendant la longue guerre de 1950 à 1953, et ensuite l'Indochine au temps des Français, et puis l'Indochine encore au temps de la guerre du Vietnam, sans parler de guerres locales ou de guerres civiles, par exemple en Malaisie ou en Birmanie. Madame Gandhi, comme son prédécesseur, le pandit Nehru, ne voulait pas que l'Inde devienne champ de bataille à son tour. Et pour l'éviter, une politique d'indépendance était une condition formelle, fondamentale, faute de quoi elle savait qu'inévitablement, les deux grandes puissances chercheraient à faire prévaloir leurs intérêts, leurs vues, leur influence, qu'elles trouveraient sur place des appuis, et qu'en définitive, de champ de bataille politique ou diplomatique, il se pourrait bien que l'Inde devint champ de bataille militaire. Entre la politique extérieure et la politique intérieure d'Indira Gandhi, il y avait un lien indissoluble. Il n'était pas possible de mener une politique d'indépendance sans un pouvoir fort. Mais en sens inverse, sans pouvoir fort, il n'y avait pas d'indépendance indienne.
La grande vision planétaire d'Indira Gandhi se sera heurtée à des problèmes internes, notamment celui du séparatisme sikh, devenu problème numéro un ces derniers mois. Viraj Singh, journaliste à Libération, est de ceux qui redoutaient l'issue fatale intervenue hier.
Les Sikhs sont quelqu'un qui savent comment se venger quelque part. Et je vous rappelle un incident en 1919. Il y a eu une tuerie de masse menée par les Britanniques en Inde. Et il y avait un Sikh qui qui, 16 ans après, qui est parti à Londres pour tuer le général qui était responsable pour ce qui est passé. C'est une tradition assez martiale. Je ne dis pas que c'était quelque chose qui était déjà prédestiné, pas du tout. Mais ce qui est important, c'est les traditions qui peuvent se faire manifester d'une manière ou l'autre. Voilà.
Donc l'attaque du temple d'Amritsar a été le détonateur, il ne fallait pas qu'elle attaque le temple.
Il fallait attaquer le temple aussi, parce que l'attaque était contre les fondamentalistes. Eux, ils prenaient les vies tous les trois jours des innocents, absolument. Voilà ça, ce que j'appelle la douleur de l'histoire, c'est tout, c'est le jeu de l'histoire.
Est-ce que l'attaque du temple d'Amritsar aurait pu être évitable?
Absolument, je crois, 6 octobre 83, c'était le premier symbole où l'État indien aurait pu marcher sur le temple. Parce que à ce moment, le mouvement fondamentaliste était très très minuscule, était petit, et tous les gens étaient avec l'État. Mais elle a fait 8 mois après, parce qu'elle a pensé que c'était 6 mois avant des élections, et après avoir attaqué les Sikhs, elle aura gagné le soutien des hindous.
Et à votre avis, la réaction des Indiens en général, est-ce que, outre les minorités Sikhs et autres minorités rebelles, on va regretter Indira Gandhi?
C'est bien que vous me demandiez ça, parce que j'en ai marre des dépêches d'AFP qui viennent ici, que les Sikhs sont en train de fêter la mort d'Indira Gandhi à Londres. Je crois pas, parce que il y a quelques militants qui peuvent toujours faire des actes comme ça, provocatrices, mais je crois pas, parce que je crois que les Sikhs sont quand même les Indiens, et c'est pas les gens qui veulent notre pays, tout ça, et c'est un mouvement, et il faut comprendre le caractère d'un mouvement qui est autonomiste, qui est vraiment marginal.
Monsieur Mukherjee, intellectuel d'origine indienne, établi en France, spécialiste des civilisations indiennes, reflète le sentiment majoritaire en Inde quand il exprime maintenant son incompréhension, son émotion.
Le sikhisme, donc, est quelque chose profondément ancré sur le sol indien, avec des éléments les plus nobles de l'islam et de l'hindouisme. Aujourd'hui, si les 16 millions de sikhs se croient minoritaires et mal aimés, ça me laisse perplexe, parce qu'aucune minorité en Inde n'est traitée ni écrasée. Il y a un regard de tolérance. Alors, dans ce contexte, le sikhisme semble souffrir d'un complexe. Par où est-elle injectée? Certains intérêts étrangers sont, de façon évidente, présents dans le contexte indien, qui a fait oublier à ces sikhs qui sont indiens leur première culture éthique de ne pas mordre la main qui donne à manger.
Quel était le ciment qui bâtissait l'union indienne?
Le patriotisme. Et je crois que c'est une rupture de patriotisme qui mène aux uns aux autres d'asséner un coup aussi mortel à un symbole aussi important qu'était Indira Gandhi. Vous savez, je n'ai jamais été adorateur, admirateur de cette dame qui vient de disparaître. Comme je vous disais, je constate au fur et à mesure que le jour avance un chagrin, un sentiment de frustration, d'injustice qui s'empare de moi, et je souhaite de tout mon cœur que celui qui sera propulsé par les courants de l'histoire méritera bien de remplacer une femme de très, très grande perspicacité.
Aujourd'hui nommé Premier ministre, le deuxième fils d'Indira Gandhi, Rajiv, prend la relève. C'est l'héritier contraint et forcé de la dynastie Gandhi. Le témoignage de Patrick Frances, ancien correspondant du Monde en Inde de 79 à 83, il a bien connu Rajiv Gandhi.
Je me souviens très bien quand j'étais en Inde, quand le personnage est apparu, je revois encore les unes des magazines indiens. On l'appelait Mr. Clean, c'était Monsieur Propre, c'est Monsieur Net. Il était lisse, on ne pouvait rien lui reprocher, ce qui était à la fois une faiblesse, parce qu'on disait, mais il ne tiendra pas le coup, il ne tiendra pas le choc face aux crocodiles qui sont autour de lui. Mais vis-à-vis de l'opinion publique, c'était une espèce de fleur assez pure qui finalement représentait un avantage et une nouveauté considérable.
Mais est-ce que ce Monsieur Propre peut devenir le Superman, l'homme fort dont l'Inde a besoin?
Alors, je ne sais pas s'il peut devenir l'homme fort. Cela dit, il s'est préparé à partir du moment où il a dit, où il a contraint et forcé, mis un pied, enfin décidé d'abandonner sa carrière de pilote et il est rentré dans la carrière politique. Il s'est préparé minutieusement et scientifiquement. Il a constitué une petite équipe d'experts autour de lui et puis il prenait dossier par dossier et puis il étudiait. Il y a un côté très jeune génération, très jeune cadre, très businessman. C'est un type qui est très ouvert aux idées nouvelles, à l'économie, est très intéressé par l'économie notamment, très, très américain entre guillemets, je veux dire un petit peu même par penchant, il est un parfait représentant de la nouvelle génération occidentalisée encore une fois entre guillemets, indienne, je veux dire il représente la jeune génération indienne. Et puis automatiquement aussi, il s'est quand même un peu endurci parce qu'il s'est frotté à toute cette classe politique et puis il s'est un peu imposé. Je me souviens, mais encore c'est très significatif, je me souviens de très nombreuses anecdotes qui lui sont arrivées quand il a commencé. Il voyageait énormément en Inde parce qu'un homme politique indien doit constamment voyager dans ce sous-continent qui est immense. Et je veux dire, très souvent, il était choqué et très en colère par le style d'accueil qui lui était réservé, qui était un accueil très traditionnel, où vous débarquez de l'avion, on vous couvre de colliers, de fleurs, on vous embrasse les pieds. Et il a souvent eu des manifestations de mauvaise humeur très, très, très nettes, qui ont abouti d'ailleurs à la disgrâce des gens qu'il avait reçus comme ça. Il s'est très nettement fâché, car manifestement, c'était des mœurs qui lui étaient étrangères. Je veux dire, il comprenait, c'est un homme moderne. Et encore une fois, c'est un pragmatique.
L'Inde d'Indira Gandhi, fin de cette édition spéciale préparée par Damien Petit et toute la rédaction, ainsi que par Anne Kobila, Christine Robert et Pierre Delordi. Nous retrouvons maintenant le cours normal des émissions de France Culture en compagnie de Gérard Gromer pour Perspectives scientifiques.